une journée très politique et un face à Duhamel un peu particulier dans cette édition spéciale. Bonsoir Alain Duhamel, éditorialiste politique BFM TV. Merci d'être dans votre émission, votre créneau, sans jingle évidemment. Bonsoir Jean-Pierre Raffarin.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Ancien Premier ministre, merci également d'échanger avec Alain ce soir. Alain, quelle est l'information que nous, en attendant le résultat, le dépouillement de ce vote, quelle est l'information que vous retenez de cette journée dont on nous a dit beaucoup qu'elle était extrêmement importante, puis finalement sans suspense?
Je dirais que la durée de François Bayrou ne devient pas, sa stabilité, disons, au-delà du budget, ne devient pas probable, mais qu'elle devient possible. Et que ça, c'est évidemment lié au fait que le Parti Socialiste ait décidé de ne pas voter la motion de censure. Cela dit, le prix a été élevé et François Bayrou a dû beaucoup concéder. Maintenant, le vrai grand test qui va venir, enfin encore fallait-il passer l'obstacle d'aujourd'hui, mais le vrai grand test, ça va être au moment du budget. Pour obtenir de nouveau une abstention des socialistes, il faudrait un budget très social. Et en même temps, il faudrait que ce ne soit pas un budget très fiscal, parce qu'autrement, ce sont les Républicains qui risqueraient de s'en aller. Et donc, c'est à ce moment-là que ça va vraiment se jouer. Disons que François Bayrou a été jusqu'à présent quand même plutôt habile, mais que pour faire un budget qui soit très social sans être très fiscal, il faut être quasiment génial, et je ne suis pas sûr qu'il soit talentueux jusqu'au génie.
Jean-Pierre Raffarin.
Oh, j'aime bien la formule possible, mais pas forcément probable. Donc, en fait, c'était la condition préalable à toute l'action, la stabilité. La motion de censure, ça voulait dire qu'il partait, qu'il n'y avait plus d'action. Donc, il a fait le nécessaire, disons que grosso modo, c'était une condition qui était nécessaire, mais qui est loin d'être suffisante. Mais elle est nécessaire, et donc on peut dire, là, bravo l'artiste, et puis on peut saluer quand même, il faut quand même le faire de temps en temps, le courage d'Olivier Faure, qui n'en est pas dépourvu dans cette affaire, puisque au fond, il va avoir un certain nombre de problèmes internes à régler, mais il choisit de donner à ce gouvernement le pouvoir de l'action. Donc on va voir naturellement sur le budget si cette action est possible, s'il y a des accords. Mais disons que de toute façon, si la motion de censure était votée, il n'y aurait pas eu d'action. Donc c'est de toute façon un préalable qu'il fallait passer. Donc je trouve en effet qu'il y a un certain nombre d'ambiguïtés sur tout ça, que je vois bien que personnellement, j'aurais pas facilement voté, que la concession sur les jours de carence dans la fonction publique. Donc c'est vrai que ça coûte assez cher tout ça, mais au fond, comme il y avait ce préalable à passer, il fallait bien faire des concessions. Donc, on est dans une situation qui est une situation extrêmement politique, mais qui n'est pas une situation d'action. Or, le pays, aujourd'hui, il a besoin d'action. Un pays endetté fait que le temps coûte de l'argent. Et donc, quand on prend son temps, ça coûte cher aux contribuables et aux classes moyennes. Donc, c'est ça notre inquiétude aujourd'hui, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on perde trop de temps pour convaincre que notre politique est budgétairement sérieuse.
Alors, le premier obstacle maintenant, ça va être le budget, effectivement. Et, je le répète, le Parti Socialiste sera obligé d'être exigeant. Ne serait-ce que parce que non seulement il se distingue des insoumis, mais aussi des écologistes et du Parti communiste. Donc, il est obligé d'être presque inexorable dans la négociation. Or, un budget social, c'est un budget coûteux. Et la priorité aujourd'hui, ça n'est pas d'augmenter les déficits, même si on est assez doué pour ça, globalement, mais c'est de les réduire. Bon, comment est-ce qu'on peut avoir un budget très social qui soit en même temps un budget financièrement très sérieux? Je dis pas du tout qu'il y arrivera pas, parce qu'il est habile. Il a apparemment un bon ministre des Finances, qui est quand même utile dans un cas comme ça. Est-ce que ça suffira? Si, je veux dire, il faut le souhaiter, en tout cas de mon point de vue, il faut le souhaiter, parce que s'il n'y parvenait pas, c'est-à-dire si le budget était censuré, la France, qui est déjà dans une position fâcheuse, deviendrait dans une position, sans forcer les mots, vraiment dramatique sur le plan économique, monétaire et financier.
Monsieur Raffarin, qu'est-ce qui différencie, selon vous, l'action de François Bayrou de celle de Michel Barnier, qui explique la situation que nous vivons aujourd'hui? Et est-ce que vous seriez allé aussi loin pour trouver un compromis?
Écoutez, de toute façon, s'il n'y avait pas ce compromis, il n'y a pas d'action. Donc, je veux dire, ça sert à rien de juger si ce compromis est positif ou pas positif. S'il n'y avait pas eu de compromis, il n'y aurait pas eu d'action. Or, il faut qu'il y ait de l'action. Donc, c'est un préalable qu'il faut prendre comme tel. Et donc, Michel Barnier a eu des difficultés avec un certain nombre de groupes. D'ailleurs, dans le groupe Renaissance, on voit que Gabriel Attal lui a pas facilité la tâche. Et donc, il y a eu un certain nombre de difficultés. Et puis, il n'a pas eu le soutien qu'a pu avoir François Bayrou avec le PS. Donc, mais Barnier, il faut faire très attention, avait eu quelque chose de très important, c'est qu'il avait reconstitué la droite. C'est-à-dire que la droite orléaniste, plutôt UDF autrefois, et la droite bonapartiste, plutôt RPR, s'étaient rassemblés. Donc, Barnier avait recréé un espace politique, et c'est une des questions très importantes aujourd'hui, c'est de savoir si l'avenir, c'est une droite républicaine qui va se battre contre une gauche républicaine, ou si c'est ce groupe central qui va présenter un projet politique. Donc on voit bien que là, il y a une question qui est très difficile. Personnellement, je suis convaincu que c'est la droite républicaine qui est la mieux placée pour lutter contre la droite extrême, et que c'est la gauche républicaine qui est la mieux placée pour se battre contre le Front populaire, le nouveau Front populaire. Ce qui veut dire que personnellement, je crois que ça va être difficile de trouver un compromis sur le budget, parce qu'il y a des sujets qui sont très clivants entre droite et gauche. La droite, aujourd'hui, elle n'est pas très favorable, et même pas favorable, à la proportionnelle. En revanche, elle est favorable au retour du maire dans la fabrique de la loi. On a exclu le maire de la fabrique de la loi, alors que le maire est le plus populaire des personnalités politiques.
Bon, mais François Bayrou, il propose les deux. Hein. Il propose la proportionnelle et le retour à la possibilité du cumul de mandats maire et député.
Mais sur ces deux points, il n'a pas une majorité.
Non.
Peut-être qu'il peut donner l'un aux uns, l'autre à l'autre. Nous verrons bien.
C'est probablement un peu l'idée de la manœuvre. Ouais. Mais c'est très intéressant, très important, la question du mode de scrutin. Mais ce qui compte, c'est d'abord la question du budget. Ce qui compte, c'est l'orientation du budget.
Je suis d'accord.
Et l'orientation du budget, là, moi, je ne crois pas du tout que ce soit une question au stade où on en est. Hein, et avec le rapport des forces qui existe actuellement à l'Assemblée, je ne crois pas que ce soit une question de droite ou gauche, ce sera une question de nécessité sociale et de possibilité financière. Et les deux choses, c'est difficile de les accoupler, franchement. C'est extrêmement difficile. Alors, sur ce que vous esquissiez, qui ne m'a pas tout à fait étonné, mais qui impliquerait un grand changement, c'est-à-dire que après toute une période, depuis 2017, pendant laquelle, effectivement, l'originalité a été la constitution d'un centre qui, en tout cas au départ, se voulait très moderniste, et de l'effacement et de la gauche classique et de la droite classique, c'est-à-dire de LR, on est maintenant dans une situation qui est en train de changer. Oui. La question est de savoir, d'une part, si le bloc central va se disloquer ou pas dans les mois qui viennent, et d'autre part, de savoir, à droite, qui va l'emporter? Est-ce que ce qui se passe annonce, du côté des LR, donc disons des post-gaullistes, annonce brusquement une recrudescence d'énergie, d'image, de séduction, ou est-ce que tout ça ne sera pas au bénéfice du Rassemblement national, qui a l'avantage, d'une part, de n'avoir jamais gouverné, ce qui, dans la tête des Français, finit par être paradoxalement un compliment, et qui, d'autre part, incarne tellement, délibérément bien sûr, toutes les formes de protestation, que dans un pays qui est inquiet et grognon, c'est quand même un avantage sur ceux qui, d'une manière ou d'une autre, prendront leurs responsabilités derrière le gouvernement.
Votre réponse, M. Raffarin, après on parlera du NFP, est-ce qu'il il existe encore ce soir? Pardon.
Je pense que le clivage droite-gauche va rester très important, notamment sur les 64 ans. Car je veux bien qu'en trois mois, on trouve pour la réforme des retraites des solutions, je l'espère. Mais ça fait 25 ans qu'on est sur le sujet.
Et ça fait 25
ans. Et les plus grands experts. Moi, j'avais une réunion quand j'étais à Magnan pendant 3 ans, tous les jours, sur les retraites avec les plus grands experts. Et ça, c'était il y a une vingtaine d'années. Donc, depuis tant, il y a beaucoup. Si en 3 ans, on trouve une solution, c'est-à-dire qu'on trouve une réforme qui n'accepte pas les 64 ans, mais qui ne coûte pas plus cher, là, je dirais chapeau, mais elle n'est pas encore trouvée. Et donc, il y aura un sujet. Alors, ce que je crois, mon cher Alain, et là, votre connaissance de sciences politiques est importante, c'est qu'au fond, la droite ne peut gagner quand les orléanistes et les bonapartistes sont d'accord. C'est-à-dire quand la droite conservatrice et la droite plus moderniste sont d'accord. Aujourd'hui, on voit se dessiner. Il y a une personnalité aujourd'hui qui apparaît dans la droite conservatrice.
Je devine.
C'est Bruno Retailleau. Et de l'autre côté, oui. Chez les orléanistes, il y a donc Édouard Philippe. Si les deux s'entendent...
Dont je ne suis pas sûr qu'il se définirait comme orléaniste. Parce qu'il a aussi le goût de l'autorité.
Oui, c'est ça. Oui,
mais... un grand intérêt, presque une passion pour l'État, etc.
Bien sûr.
Ce qui n'est pas exactement orléaniste.
C'est vrai, mais disons que c'est une droite moderne, c'est une droite entrepreneuriale, c'est une droite qui n'est pas...
Énergique.
N'est pas la droite jacobine traditionnelle.
C'est une droite énergique.
Mais cette alliance-là d'une droite ouverte et d'une droite plus conservatrice, je pense qu'elle peut aujourd'hui, si elle s'organise, elle peut peser lourd, car je crois qu'elle est au centre de gravité des préoccupations françaises.
Mais elle n'a pas la majorité du tout.
Aujourd'hui au Parlement, non.
Non,
ça c'est clair.
C'est ça que je voulais dire.
Mais c'est que pour l'avenir, je crois que là, il y a quelque chose qui est en train de se construire parce que justement, il y a cette personnalité-là qui apparaît, qui est celle de Bruno Retailleau. Un conservateur, certes, qui a un certain nombre de valeurs, mais c'est quelqu'un qui a une éthique, c'est quelqu'un de respectable, c'est quelqu'un qui ne va pas avoir les inconvénients qu'ont eu un grand nombre de leaders de la droite aux limites de l'extrême droite. Il est aujourd'hui beaucoup plus central
et plus
positif.
Je suis d'accord sur le fait qu'il y a une émergence de Bruno Retailleau qui est même assez spectaculaire.
Assez spectaculaire.
Et quand on a un peu de mémoire, très rapide par rapport à ce genre de choses.
Je vous attends, monsieur. Boris Vallaud est en train de s'exprimer en direct des quatre colonnes.
L'intérêt du pays, l'intérêt des Françaises et des Français, en particulier de celles et de ceux qui n'ont que leur travail pour vivre avec un certain nombre de principes simples, ramener des victoires à la maison et épargner des souffrances aux Français. Et depuis le début de cette bataille que nous avons engagée dès le gouvernement de Michel Barnier, nous pouvons dire que nous avons obtenu, avec la première motion de censure, la réindexation des pensions. Il était prévu 3,6 milliards d'euros d'économies sur les retraités. Nous avons pu faire renoncer le gouvernement à la taxe sur l'électricité, au déremboursement des médicaments comme des consultations. Nous avons pu obtenir le rétablissement des 4000 postes d'enseignants qui devaient être supprimés. Nous avons pu également obtenir que les 500 postes qui devaient être supprimés à France Travail ne le soient pas. Il n'y aura pas d'augmentation du nombre de jours de carence pour nos fonctionnaires. Nous avons plus de moyens pour l'hôpital, même si c'est encore largement insuffisant, mais cela correspond à plus de 10 000 postes de soignants maintenus ou créés, et je l'espère de réouverture de lits. Est-ce que c'est suffisant ? Certainement pas. Est-ce que nous continuerons de nous battre avec comme ligne de mire la justice ? Oui, il n'y a pas de chèque en blanc. Il n'y a pas... d'accord, de non-censure. Nous n'y sommes pas parvenus parce que c'est insuffisant. Nous allons nous battre avec toute la vigueur qui est la nôtre et nous comptons bien faire progresser encore ce budget. Nous demeurons une opposition intransigeante à chaque fois qu'il en va des principes, une opposition qui se bat, qui ne confond pas sa droite et sa gauche, mais qui veut être utile aujourd'hui et pas seulement dans 30 mois. Merci.
Boris Vallaud, le président du groupe socialiste et apparenté à l'Assemblée nationale. Pas de chèque en blanc, mais il y a quand même cette espèce de pression qui est mise au-dessus de François Bayrou.
C'est comme oui, il vient de redire avec une certaine éloquence ce que Faure avait dit, donc le premier secrétaire du parti, quelques heures plus tôt. Bon, enfin bon... C'est intéressant, ça prouve déjà qu'ils sont sur une ligne compatible. Non, mais d'un mot, je voulais quand même répondre à Jean-Pierre Raffarin. Je suis bien d'accord que la personnalité dans la droite dure qui émerge, effectivement, c'est Bruno Retailleau. Je suis d'accord avec lui aussi que dans la droite plus centriste, encore que centriste, je trouve que ça s'applique pas bien à lui. Mais c'est effectivement Édouard Philippe. Le problème, c'est qu'il y en a deux et qu'il y en a un de trop. Autrement, ce camp-là, s'il se divise, Franchement, il n'y arrivera pas.
Hein. Voilà, c'est pour ça que ça peut arriver qu'il se retrouve. Et puis d'abord, au fond, l'exécutif français, c'est deux personnalités. C'est un président et un premier ministre. Donc,
d'accord, surtout quand tout est déjà fait, j'ai un ticket.
Sur qui et où.
Voilà. Voilà.
Jean-Pierre, enfin, comment vous vivez cette journée? Est-ce que d'abord, à l'issue de cette journée, vous avez l'impression qu'on assiste à la fin du nouveau Front populaire, avec la position du PS réitérée à l'instant par Boris Vallaud?
Je me méfie, je sens derrière beaucoup de tactique derrière tout ça. Donc, je crains beaucoup que, au moment des municipales, tout sera ça oublié et que la gauche pourra se retrouver. On a vu ça très souvent. Vous savez, la gauche, elle se divise au pouvoir, elle se rassemble dans la conquête. Donc, dès qu'on va approcher des élections, elle se rassemblera.
Elle se redivise dans la conquête, là.
Là, ils sont pas dans la conquête.
Ou dans l'opposition.
Ils sont dans l'exécutif, ils sont en train d'essayer d'obtenir un certain nombre de choses. Et dès qu'on parle d'action, ils sont séparés. Mais dès qu'il s'agit de conquérir, ils font des listes ensemble. Donc, je suis très, très prudent. Mais je ne crois pas qu'ils portent l'avenir du pays, très franchement. Et je pense qu'il faut naturellement saluer leur position. Je trouve que c'est fait avec un certain courage. Donc, je respecte cette position. Mais au total, je ne crois pas que la gauche porte l'avenir du pays aujourd'hui.
Vous terminez,
dans un monde très difficile, il y a un certain nombre de valeurs qu'il faut défendre avec force, et ces valeurs sont plutôt des valeurs de droite.
Oui, non, mais d'un mot, je pense que ce qui se passe au Parti Socialiste est quand même important. D'abord parce que dans une période qui est une période clé, évidemment, encore fallait-il prendre le parti du réalisme, et c'est ce qu'il a fait. Et d'autre part, ce qui est, je trouve, très intéressant du point de vue de l'union de la gauche, c'est que celui qui décroche des avantages, des garanties ou des protections pour les Français, ce sont les socialistes et ce ne sont pas les insoumis, les écologistes ou les communistes. Et que si ça se répète, comme c'est très possible, puisque tout dépend maintenant du Parti Socialiste, si ça se répète dans quelques semaines, au moment du budget, à ce moment-là, ça sera une différenciation et l'image du PS ne sera plus celle d'un parti qui se racornit, qui vieillit, comme ça avait été le cas avant 2017. Ça sera l'image d'un parti qui se reconstruit et qui surtout obtient des résultats, ce qui n'est pas toujours la caractéristique de la gauche. Mais là, il obtiendrait des résultats et donc il retrouverait une force.
Jean-Pierre Raffarin, vous disiez bravo l'artiste pour François Bayrou, vous dites bravo l'artiste pour Olivier Faure, qui arrive à s'émanciper, en tout cas pour la journée.
Non, je note que ça demande un peu de caractère et un peu de courage, donc je le salue. C'est pas toujours facile de rompre avec des alliés, c'est pas facile, donc je salue ça. Je ne crie pas bravo tout ça. Je trouve que celui qui a besoin de temps, c'est François Bayrou, et qui a gagné du temps aujourd'hui, c'est François Bayrou. Mais je crois, pour répondre à Alain Duhamel, je crois qu'au fond, la probabilité que le Parti Socialiste cherche encore à gagner un certain nombre de décisions positives pour son propre électorat va les conduire sans doute à une coopération sur le budget. Et François Bayrou va être sur le budget comme il est sur la motion de censure là, il va être ouvert à la coopération. C'est évident, puisqu'autrement il n'aura pas de budget. Donc il va être ouvert à la coopération. Donc on est parti dans une social-démocratie minimale pour un certain temps. Et souhaitons que ce soit quand même rigoureux sur le plan financier, sur la dette, parce que à ce moment-là, on aura des difficultés majeures avec tous ceux qui nous prêtent de l'argent.
Alors,
donc là, quand on est endetté, on ne doit pas perdre de temps. C'est une règle générale.
Je suis d'accord. Il faut être, du point de vue de François Bayrou, généreux sur le plan social, rigoureux sur le plan financier, et que assez peu d'hommes politiques ont trouvé la recette pour concilier
absolument,
les deux.
Absolument.
En revanche, si le Parti Socialiste obtient des garanties, des avancées, ou je ne sais pas quoi, à cette occasion, vous parliez des élections municipales qui sont l'année prochaine, ça les confortera par rapport aux insoumis, en pensant aux élections municipales aussi. Donc, c'est un investissement.
C'est un investissement. Et d'ailleurs, pour les démocrates, on peut s'en réjouir, parce que ça affaiblira les extrêmes, en tout cas du côté de la gauche. Oui. Il faut que les républicains fassent la même chose vis-à-vis du Front National, c'est-à-dire de parler aux électeurs du Front National pour les faire revenir dans une vision républicaine de notre pays. Voilà. Et c'est quand même très important. Et je pense que c'est là où se joue l'avenir du pays aujourd'hui. C'est pour ça que ce que fait Olivier Faure, ce qu'avait tenté Bernard Cazeneuve avant, on va voir comment ça s'organise tout ça. Mais s'il peut y avoir cette perspective-là, un jour, on retrouvera peut-être une alternance républicaine possible entre une droite républicaine et une gauche républicaine.
Alain, est-ce que ça veut dire qu'on est dans le conjoncturel et pas dans le panneau structurel? On n'assiste pas à la... Alors qu'on me dit que les résultats vont être donnés en direct sur BFM TV. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui s'installe au perchoir et qui va donc...
Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure sur la majorité absolue des membres composant l'Assemblée, 288. Pour l'adoption, 131. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Prochaine séance, lundi 20 janvier à 16h. Projet de loi d'urgence pour Mayotte. La séance est levée.
Voilà donc pour ce suspense qui n'en était plus un. Les chiffres, 131 députés ont voté pour la motion de censure. C'était 331, c'est 200 de moins, tout juste que le 4 décembre contre Michel Barnier. 200 de moins, c'est assez énorme, ça c'est important.
La différence, c'est que le Rassemblement National ne l'a pas voté.
A priori.
Et... oui.
On verra, il y a 66 députés PS, on verra combien.
Pas a priori. Le PS, globalement, n'a pas voté la censure, et le Rassemblement National non plus. Donc la différence arithmétique, elle s'explique très bien. Cela dit, il vaut mieux bénéficier de cette différence arithmétique-là pour François Bayrou que ce qui s'est passé aux dépens de son prédécesseur, Michel Barnier. Disons que c'est quand même un beau résultat pour François Bayrou.
Et a priori, Monsieur Rabin, pas de frondeur a priori au PS. On verra même si dans les autres parties du NFP, il y a eu des frondeurs.
Oui.
Mais le résultat paraît assez impressionnant.
Ça sera intéressant à suivre.
On va évidemment
notamment chez les écologistes.
Exactement. C'est aussi votre sentiment.
Et puis on va voir aussi comment la droite vit tout ça et de voir comment le centre-droit peut se rassembler. Je vous disais que Michel Barnier avait réuni un peu les deux parties de la droite, celle qui était plutôt macronienne, cette droite macronienne, et la droite plutôt opposition. Donc on va voir un peu comment les uns et les autres vont avancer. Mais n'oublions pas quand même l'essentiel. L'essentiel, c'est d'envoyer des signaux très clairs sur le fait qu'on a une politique de la France qui est une politique financièrement responsable. On a besoin de réformes, on a besoin d'un certain nombre de sujets. Maintenant, il ne faut pas se disperser, il ne faut pas chercher à vouloir de faire toutes les grandes transformations, il ne faut pas chercher à défendre tous les intérêts des uns et des autres. Il faut 3 ou 4 priorités simples que le pays comprenne et sur lesquels on obtienne rapidement des résultats.
Alain Duhamel, est-ce que ça change quelque chose à l'Élysée aussi, ce qui se passe aujourd'hui? À savoir, est-ce que ça pourrait contraindre ce nouvel équilibre, à défaut d'une...
Disons que ça conforte forcément François Bayrou dans son autonomie. Il a obtenu...
Donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron, ce que vous dites.
Bon, c'est pas une mauvaise nouvelle non plus, parce qu'Emmanuel Macron n'a aucun intérêt à ce que François Bayrou...
Il aurait été responsable de l'échec.
Oui, et il a aucun intérêt à ce qu'il y ait une motion de censure qui passe. Au contraire, parce qu'à ce moment-là, s'il y avait une motion de censure qui passait maintenant, c'est jusqu'ici une crise politique, ça deviendrait une crise de régime. Donc, il peut se féliciter de ce résultat, même si ça facilite l'émancipation de François Bayrou.
Et ça, c'est un problème, d'avoir un Premier ministre émancipé?
Non, je ne crois pas en cette période où les choses sont difficiles pour le président. Je pense que c'est bien de revenir à une 5e République dans laquelle le Premier ministre est exposé. Et jusqu'à maintenant, on a souffert, je crois vraiment, du fait que le président était trop exposé, surexposé. Et donc, qu'on revienne à...
Parfois de son propre fait.
Ou même de son propre fait. C'était surexposé.
Et c'était surexposé lui-même. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas, je crois, dans l'esprit de la 5e République où le Premier ministre, c'est une sorte de d'airbag aussi du président. Il y a de la protection dans le Premier ministre. Il est là pour prendre un certain nombre de coups. Il est là aussi pour gérer un certain nombre de difficultés. Donc, un Premier ministre qui s'expose, ce n'est pas un handicap pour le président. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que vouloir affaiblir son Premier ministre pour un président, c'est une grave erreur. J'ai eu le bonheur d'avoir un président, Jacques Chirac, qui cherchait plutôt à défendre son Premier ministre.
Et en un mot, je dirais que s'il y avait deux choses à se rappeler à propos de cette journée... La première, c'est que les socialistes sont en train de conquérir leur autonomie. Et la deuxième, c'est que François Bayrou a bien joué.
Autonomie ou indépendance? Pour l'instant, c'est l'autonomie.
Autonomie.
La troisième, les rendez-vous sont toujours là. Et c'est le budget, le prochain.
Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. C'est la question que j'allais vous poser. Ça va jouer quand? Budget. Ce sera vraiment le plus important.
Budget. Ah bah, de toute façon, c'est toujours la loi la plus importante de l'année. Hein. Ouais. Mais alors, en pleine crise comme celle que nous traversons, c'est encore plus important.
Probablement que ce sera aussi important la réforme des retraites, sa mise en place et de voir si on peut avancer, parce qu'il y a les 64 ans là qui restent quand même un sujet difficile sur lequel parmi les gens qui n'ont pas voté la censure aujourd'hui, il y a quand même un désaccord entre ceux qui veulent rester à 64 ans pour faire des économies et ceux qui veulent changer, ce qui va coûter cher.
Merci à tous les deux.